L'air mortel, affirma le hippie avec un peu d'assurance. Personne n'irait lui chercher des noises, proclama Loupé. Edward Gancho, lui-même, toujours porté à voir le bon côté des choses, trouva la figurine effrayante. Je comprends que la mésaventure de la boule de plume ait pu l'aigrir, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'air commode, dit-il à Loupé, avec tout le respect qu'il lui devait. Elle n'a pas demandé à naître comme ça, lui répondit la petite. Elle a été sacrifiée dans le plan général de la création, apparemment. Quand on lui a coupé la tête, du sang a jailli de sa nuque et deux serpents gigantesques ont formé son visage. Loupé marqua un temps pour permettre à Juan Diego de traduire. Parmi nous, il y en a qui n'ont pas choisi d'être ce qu'ils sont. Mais, commença Edward Gancho, moi je suis comme je suis, reprit Loupé. Juan Diego leva les yeux au ciel en traduisant. Loupé appuya contre sa joue l'idole grotesque. Elle était déjà pleine d'adoration pour la déesse avant même que le brave gringo ne lui offre l'effigie. Quant à Juan Diego, il se masturbait parfois dans son lit, imaginant, allongé à côté de lui, la Sainte Vierge reçue en cadeau, car il aimait voir son visage extatique tout près du sien. Le léger renflement de ses seins lui suffisait. L'impassible mannequin était fait d'un plastique léger mais rigide, et s'il mesurait quelques centimètres de plus que Juan Diego, il était creux, de sorte qu'il pouvait le transporter sous son bras. Deux circonstances s'opposaient cependant à ce qu'il mette la Vierge dans son lit, ou plutôt qu'il fantasme de le faire. Tout d'abord, il lui fallait pour cela être seul dans la chambre, sachant bien entendu que Loupé, qui lisait dans ses pensées, n'ignorait pas son dessein. Et ensuite, il y avait le socle. Les jolis pieds de Guadalupe étaient fixés à un piédestal d'herbe vert chartreuse qui avait la circonférence d'un pneu de voiture. C'était donc un obstacle conséquent à son désir de se pelotonner contre elle dans le lit. Il avait bien pensé à le scier, ce piédestal, mais alors il aurait sectionné du même coup les pieds mignons de la statue et ses chevilles, et elle n'aurait plus pu tenir debout. Loupé n'ignorait rien des ruminations de son frère. « Je ne veux pas voir Notre-Dame de Guadalupe couchée ni adossée au mur de notre chambre. Que je ne te prenne pas à la flanquer tête en bas dans un coin parce que tu l'auras amputée des pieds. »« Regarde-la, Loupé !» s'écria Juan Diego. Il désignait la statue devant l'une des étagères de l'ancienne bibliothèque. On aurait dit un personnage littéraire sorti de son contexte, une héroïne échappée d'entre les pages d'un roman et désormais incapable d'y retourner. « Regarde-la » répéta-t-il. « Tu crois que ça l'intéresse de coucher ?» Un hasard heureux voulut que sœur Gloria vienne à passer devant leur chambre. Elle y jeta un coup d'œil depuis le couloir. Elle n'était pas d'accord pour qu'ils installent cette Guadalupe grandeur nature dans leur domaine, encore des privilèges immérités. Mais frère Pépé avait défendu les enfants. Que pouvait-elle trouver à redire à un objet de piété? Sœur Gloria objecta que la statue ressemblait davantage à un mannequin de couturière et plutôt suggestif, avait-elle précisé. Pas question d'allonger Notre-Dame de Guadalupe. Les saintes vierges vendues à la Niña de las Posadas n'étaient pas convenables, pensait-elle. Elle se figurait la Madone autrement et jugeait indécent qu'on lui donne une allure aguichante. Ce fut hélas ce souvenir, parmi d'autres, qui tira Juan Diego de son rêve dans sa chambre soudain étouffante. Au fait, comment pouvait-il faire aussi chaud dans cet hôtel frigo? Les poissons flottaient, ventre en l'air, à la surface de l'aquarium figé dans sa lueur verdâtre. L'hippocampe, si fringant naguère, avait cessé de se dresser, et sa queue préhensible, inerte, indiquait qu'il avait rejoint à jamais les membres défunts de sa famille des cinq-nattes. Le problème des bulles d'eau était-il revenu? Ou bien les poissons morts avaient-ils bouché le système de filtration? On n'entendait plus gargouiller l'aquarium, l'eau demeurait immobile et trouble, et pourtant une paire d'yeux jaunâtres fixait Juan Diego depuis les fonds nébuleux. La murène, ses ouïes cherchant le peu d'oxygène qui restait, semblait la seule survivante du désastre. Se souvint Juan Diego. Quand il était rentré, il avait trouvé sa chambre glaciale et la climatisation à fond. La femme de chambre avait dû la monter. Elle avait d'ailleurs aussi laissé la radio allumée. Comme il ne savait pas éteindre cette musique taraudante, il avait dû débrancher le radio-réveil. Il faut dire que la femme de chambre était perfectionniste. Voyant qu'il avait préparé sa dose de bêta-bloquant, elle avait étalé tous ses autres médicaments, dont le Viagra, ainsi que le coupe comprimé. L'écrivain en avait été irrité et déconcentré. Circonstance aggravante, il n'avait découvert les intentions de la camériste qu'après avoir débranché la radio et bu l'une des quatre bières du seau à glace. À la première crue de l'aquarium sinistré, il vit qu'il ne restait qu'une bouteille de San Miguel, surnageant dans l'eau tiède. Aurait-il bu les trois autres en rentrant? Et l'air conditionné, quand l'avait-il éteint? Peut-être s'était-il réveillé en claquant des dents, et dans un demi-sommeil polaire s'était-il dirigé en grelottant vers le thermostat fixé sur le mur de la chambre. Tout en tenant à l'œil la señora Morales, il plongea l'index dans l'eau du bac et le tira aussitôt. La mer de Chine elle-même jamais ne fut si chaude. On aurait dit une bouillabaisse mijotant à petit feu. Malheureux, qu'est-ce que j'ai fait? Se demanda-t-il. Et puis quels rêves intenses! C'était rare quand il prenait la dose prescrite de bêta-bloquant. C'est alors qu'il se souvint. Il alla dans la salle de bain. Le pouvoir de suggestion s'y révéla. Il avait dû couper en deux la pilule de l'oppresseur. Cette fois, il n'avait absorbé qu'une demi-dose. Du moins, n'avait-il pas pris un Viagra à la place. Double dose la veille, demi-dose ce soir-là. Que dirait le docteur Rosemary Stein, si elle savait? Pas bon, pas bon, marmonna-t-il en rentrant dans la chambre torride. Les trois bouteilles de San Miguel vides l'accusaient. On aurait dit de petites gardes du corps inflexibles qui auraient protégé la télécommande sur la table de la télévision. Mais oui, il se souvenait maintenant. Il était resté hébété devant l'écran passé au noir après avoir montré le terroriste boiteux de Mindanao. Et quand il s'était couché après les trois bières frappées dans une climatisation féroce, son cerveau avait dû entrer en hibernation. Un demi-comprimé de l'oppresseur ne suffisait pas à tenir ses rêves en respect. Il se rappelait qu'il faisait très chaud dans la rue lorsque Bienvenido l'avait ramené au Shangri-La après dîner. Il régnait une moiteur terrible à Manille et il sentait sa chemise collée à son dos. Les chiens renifleurs haletaient dans le hall de l'hôtel. Il avait constaté avec contrariété que cette équipe de nuit n'était pas celle qu'il connaissait. Les vigiles aussi avaient changé. Le directeur de l'hôtel lui avait indiqué que le thermomètre de l'aquarium était très délicat. Peut-être avait-il voulu dire le thermostat. Dans une chambre avec air conditionné, le rôle de ce thermostat n'était-il pas de maintenir la température de l'eau assez élevée pour ne pas dépayser les natifs de la mer de Chine? Si bien que, quand Juan Diego avait coupé la climatisation, la fonction de ce thermostat avait changé. Les petits poissons de Tante Carmen, Juan Diego les avait mis à cuire. Seule la murène outragée s'accrochait à la vie parmi ses congénères qui flottaient, le ventre en l'air. Ce thermostat ne pouvait-il donc pas rafraîchir l'eau aussi? « Lo siento, señora Morales », dit une fois de plus Juan Diego. Les ouïes de la murène n'ondulaient plus, elles brassaient. Il appela le directeur de l'hôtel pour lui annoncer l'hécatombe. Il fallut alerter l'animalerie exotique de Makati City. Pouvait-on encore sauver Morales si les employés arrivaient assez vite et démontaient l'aquarium pour la remettre dans une eau de mer toute fraîche? « Il faudra peut-être lui donner un sédatif pour le voyage », suggéra le directeur de l'hôtel. À voir de quel œil elle le fixait, Juan Diego conclut qu'elle vivrait très mal cette sédation. Il remit l'air conditionné avant de quitter sa chambre pour prendre son petit déjeuner. Sur le seuil, il lança un coup d'œil qu'il espéra être le dernier vers l'aquarium devenu antichambre de la mort. La señora Morales le regarda partir comme si elle avait hâte de le revoir, de préférence à l'heure de l'extrême onction. « Lo siento, señora Morales », lui dit-il encore, en laissant la porte se refermer en douceur derrière lui. Mais lorsqu'il se retrouva tout seul dans l'ascenseur, sorte d'étouffoir puant dépourvu de climatisation, il se mit à hurler à plein poumon. « Je t'emmerde, Clark French, et toi aussi je t'emmerde, tante Carmen, sans t'avoir jamais vu !» Il cessa de hurler en apercevant la caméra de surveillance fixée au-dessus des boutons d'étage et braquée sur lui. Il ne savait pas si elle enregistrait aussi les sons. Mais qu'il comprenne ou pas ce qu'il disait, il se figurait les vigiles de l'hôtel en train d'observer ce cinglé d'infirme proférant ses imprécations tout seul dans l'ascenseur. Le directeur de l'hôtel vint trouver son hôte de marque au moment où il finissait son petit déjeuner. « Ces malheureux poissons, monsieur, on s'en est occupé. Les employés de l'animalerie sont passés, lui annonça-t-il. puis baissant la voix.